Dominique Moll, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes au Festival de Bruxelles pour nous présenter La Nuit du 12.
Oui.
Film qui sortira chez nous le 31 août.
Oui.
Mais que j'ai le plaisir de découvrir à Cannes, dans Cannes Première, où là vous avez été ovationné, on peut le dire. Grand moment. Le film, c'est l'histoire d'une enquête qui fait partie des nombreuses enquêtes non résolues. Et vous avez choisi, vous avez pris le parti pris de nous déclarer dès le départ qu'en fait on ne saurait pas nécessairement qui est le coupable de ce crime crapuleux.
Oui, ça nous semblait important de ne pas tricher avec le spectateur et de lui annoncer la couleur, lui dire voilà, c'est une enquête, mais ça sera une enquête non résolue où le coupable ne sera pas démasqué. Aussi pour indiquer au spectateur que l'important c'était justement de ne pas se concentrer que là-dessus, mais de lui permettre aussi de regarder ailleurs et d'observer voilà les enquêteurs dans leur travail. De voir comment ils sont affectés par ces crimes auxquels ils sont confrontés, de voir les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans leur métier, et aussi de questionner en fait leur rapport par rapport à ces crimes, parce que c'est un monde, le monde de la police judiciaire est un monde quasi exclusivement masculin. Ils sont confrontés à des crimes qui sont commis en majorité par des hommes, et de quelle façon est-ce que ça va questionner leur propre masculinité, enfin qu'est-ce qu'ils font de tout ça, voilà. Mais ça reste quand même, je pense, une enquête qui est aussi prenante et haletante. Et même si on sait paradoxalement qu'elle sera non résolue, on s'identifie quand même tout le temps aux enquêteurs, et à chaque fois qu'il y a un nouveau suspect, on essaye d'y croire et de comme eux ont envie d'y croire. Et d'ailleurs, enfin, peut-être que le coupable est un des suspects, mais sauf ils n'ont pas de preuves pour en inculper. Mais je pense qu'on participe malgré cet avertissement pleinement à l'enquête.
Oui, tout à fait. Alors le chef de brigade, c'est Johan, interprété par Bastien Bouillon, qui en fait est un petit peu un fil rouge par rapport à un autre film, votre précédent, Seul les muettes, où là il était aussi Cédric, c'est major qu'il était, je crois.
Il était gendarme. Alors dans Seul les bêtes, Seul les bêtes n'était pas une enquête policière, parce que même s'il y avait un crime, on était quand même beaucoup du côté des personnes qui étaient impliquées d'une façon ou de l'autre dans ce meurtre. Le gendarme interprété par Bastien Bouillon était assez en retrait. Il intervenait comme ça ponctuellement, et il avait presque plus un rôle d'assistante sociale que d'enquêteur. Enfin, on a l'impression que ce qui lui importait, c'était de créer du lien social plutôt que de résoudre vraiment l'enquête. Donc là, le personnage est très différent, parce que même si c'est le même comédien, mais le personnage est très différent, puisque c'est un enquêteur qui est véritablement hanté par cette enquête et qui n'arrive pas à se la sortir de la tête, enfin d'autant plus qu'il n'arrive pas à la résoudre.
Il y a aussi un peu de similitude par rapport au lieu. Dans Seul les bêtes, c'est le Cosméjean, et La Nuit, donc vous êtes dans Savoie-Isère. C'est dans une suite logique. C'est inconscient, ou ce sont des régions qui vous parlent davantage?
La montagne m'inspire. Harry, c'était dans le Cantal, c'était aussi assez montagneux. Dans les Mignes, il y avait en partie les Pyrénées. Donc c'est vrai que la montagne m'inspire. Voilà. Après, c'est pas juste parce que je la trouve jolie. Enfin, dans La Nuit du 12, alors la PJ est située à Grenoble, et puis j'aime bien j'ai toujours voulu tourner là-bas, parce que elle est encerclée de montagnes, et donc il y a cette idée aussi d'enfermement, d'horizon bouché, enfin que ont les enquêteurs aussi dans leur travail, puisqu'ils n'arrivent pas à trouver la solution. Et dans la vallée de la Maurienne, donc à Saint-Jean-de-Maurienne, où le crime est commis, c'est encore accentué encore davantage, parce que c'est une vallée assez étroite, avec des montagnes qui sont beaucoup plus proches de la ville. Et les montagnes ont pour moi quelque chose à la fois majestueux et beau, et en même temps quelque chose d'oppressant et d'un peu menaçant. Et j'aime bien ce contraste et ce mélange, et je trouvais que ça allait bien avec le film.
Ce sujet. Ouais. Ouais. Alors bon, parmi cette brigade, il y a notre fameux Bouly Lanners quand même.
Oui.
Est-ce que c'est votre producteur ou coproducteur Jacques-Henri Boncard qui vous a dit tiens, j'ai un comédien intéressant pour toi, ou est-ce qu'au contraire c'est Bouly qui vous a dit mais non, j'ai mon copain Jacques-Henri qui pourrait éventuellement coproduire.
Alors ni l'un ni l'autre. Enfin, c'est vrai que moi à un moment donné j'ai choisi Bouly pour interpréter le personnage de Marceau, et comme il y avait Bouly, les productrices françaises se sont dit tiens, on peut peut-être essayer d'avoir une coproduction avec Versus. Voilà, mais c'était pas Bouly. Enfin, Bouly, quand il est comédien, il est vraiment
dans son
il est comédien. Il même s'il est aussi réalisateur et un super réalisateur, enfin j'aime beaucoup ses films, quand il est comédien, il va pas se mêler de la production ou de la réalisation, il est vraiment concentré sur son travail de comédien.
Alors là, il semblerait que vous aimez quand même bien la Belgique, vous y faites votre marché. Je prends au hasard, si on peut dire, un chef op qui est Jean-François Engens. Vous avez ici Bouly et David Murgia. Vous avez dans Planète Mars, c'est Damien, c'est Evel Battens. Vous avez Wim Wenders dans Tunnel. Vous avez Déborah François dans Le Moine. Et parmi vos coproducteurs, Patrick Kinney, Michael Goldberg et Jacques-Henri. On a quelque chose de particulier pour vous?
Bah oui, vous êtes très sympathique déjà. Non, mais après, enfin, c'est vrai que, au niveau des comédiens, il y a un vivier de talents assez extraordinaire en Belgique, et surtout des personnes un peu atypiques, enfin qu'on trouve pas forcément en France, enfin que voilà, que ça soit Gourmet, que ça soit Bouly, c'est avec des personnalités très fortes et voilà qui font pas comédien entre guillemets, et ça c'est vraiment super. Et puis voilà, et puis enfin après, comme on partage la même langue, c'est normal qu'il y ait des interconnexions, tout à fait. Ouais.
Alors votre film, c'est l'adaptation de l'ouvrage de Pauline Guénard, donc 18-3, une année à la PJ. Vous aviez le manuscrit avant sa sortie en librairie ou
non, pas du tout.
Vous avez sauté dessus et...
Enfin, j'ai sauté dessus. Non, en fait, il est sorti pendant le confinement, donc il n'a pas eu le livre, donc il n'a pas eu la carrière qu'il mérite, je trouve. Moi, je suis tombé dessus dans une newsletter de Gallimard où il y avait la quatrième de couverture, donc qui est un extrait du livre, et justement où ils disent à la PJ, on raconte que chaque enquêteur tombe un jour ou l'autre sur un crime qui le hante. Et voilà, cette idée de l'enquêteur hanté par un crime, ça m'a accroché. J'avais envie d'en savoir plus, et d'autant plus que la démarche de Pauline Guénard m'intéressait, puisqu'elle a passé un an en immersion à la PJ de Versailles avant d'écrire ce livre, qui n'est donc pas un roman, mais qui est le fruit de ses observations in situ au cœur de la PJ, où elle a accompagné les équipes partout, que ce soit les stup, la crime, enfin sur les scènes de crime, pendant les interrogatoires, enfin tout. Donc c'est vraiment une vision de l'intérieur et qui du coup est beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressante que plein de romans policiers, même aussi documentés soient-ils, mais qui restent quand même de la fiction, avec parfois une vision un peu romantique de la police, où souvent les enquêteurs sont de gauche, alors que ça c'est assez rare quand même, faut le dire. Donc ça a éveillé ma curiosité, donc j'ai acheté le livre, je l'ai lu. Et en fait, à la fin du livre, sur les deux derniers chapitres, il parle de cette enquête-là en particulier, le meurtre d'une jeune femme, Clara, et surtout, donc, justement, de la façon dont un des enquêteurs devient obsédé et hanté par cette affaire qu'il n'arrive pas à résoudre. Et c'est, voilà, c'est décrit... enfin, elle arrive à nous rendre les personnages très très proches dans leurs doutes, dans leur passion aussi pour leur métier. Et ça m'a donné envie d'en parler. Et puis après, c'est vrai que dans cette enquête, enfin même si après on a pris nos libertés, mais il y avait aussi des éléments qui étaient très très fictionnels. Enfin, comme par exemple la relance de l'enquête 3 ans après par une juge d'instruction. L'idée de planquer des caméras dans le cimetière de la victime, enfin ces choses-là qui étaient très, très fictionnelles et qui m'ont donné envie de me l'approprier, de partir là-dessus.
Et en parlant scénario, donc Pauline a travaillé avec vous et fatalement aussi votre complice de toujours, Gilles Marchand, plus de 20 ans.
Vous êtes gentil, ouais.
et quand lui réalise, c'est vous qui vous émettez aussi. Comment ça fonctionne entre vous ?
Bah très bien. Non mais ça fait presque bien 35 ans qu'on se connaît. Enfin, on s'est rencontrés à l'école de cinéma et depuis on travaille très régulièrement ensemble sur les projets des uns des autres. Et c'est vrai qu'il y a c'est un binôme qui fonctionne. Enfin, les frères Larieux nous appellent en rigolant les frères Moll. Il y a un truc, c'est vrai, où on est très proches, où on s'entend très bien, où chacun a quand même son univers. Enfin, nos deux univers se recoupent, mais on n'est pas non plus des copies conformes l'un de l'autre. Et surtout, on en est arrivé à un stade de travail où il n'y a pas de tabou, où on peut sortir n'importe quelle idée, même si elle paraît débile, et puis si elle est rejetée, bah elle est rejetée, si l'autre bondit dessus, bah tant mieux, on va voir. Donc il n'y a pas de problème d'ego, etc. C'est une vraie collaboration qui fonctionne, et là, une fois de plus, ça a encore très bien marché. Ouais.
Est-ce qu'on peut dire que votre film, comme les autres, parle d'amour, ou que ici, Marceau, Murgia, qui sont en mal d'amour, que ça soit Mélochet, Bonnard, Calamine, Nadia ou Valérien, qui aussi cherchent l'amour.
Oui, alors probablement seules les bêtes, enfin parlaient plus du manque d'amour, mais vous avez pas tort, là aussi c'est assez présent, mais ça parle aussi de l'absence, enfin du trou que laisse
un départ,
enfin la mort, enfin surtout violente et surtout d'une jeune femme, enfin auprès de ses parents, mais auprès de sa meilleure amie, mais pas que des proches, enfin et de ça. Parce qu'on ça m'intéressait aussi de voir justement ce que ça peut créer comme remous intérieur chez un flic qui n'était pas du tout de sa famille, mais que comme si mais ce qui était intéressant, c'est Pauline Guénard en parlant son livre, et après j'ai vu ça aussi quand j'ai fait moi une immersion d'une semaine à la PJ de Grenoble, c'est que les enquêteurs de la PJ, ils font vraiment une distinction entre ce qu'ils appellent les vrais victimes, enfin comme Clara par exemple, c'est-à-dire quelqu'un qui était au mauvais endroit au mauvais moment, ou qui a été tué pour des raisons absurdes, une femme qui se fait tuer par son mari, et les victimes de règlements de compte entre dealers, etc., enfin du milieu du banditisme ou de la drogue, ou ce qui les affecte beaucoup moins, alors que ce qu'ils appellent une vraie victime, ça les... parce que voilà, ça aurait pu être leur femme, leur fille, leur fils, et donc ça les affecte beaucoup plus, et ils ont encore plus envie de trouver le coupable et de l'amener devant la justice.
Est-ce que vous êtes superstitieux? Je pense au marabout d'Abidjan ou au chat noir qui se balade dans la nuit du 12.
Non, je ne le suis pas, mais c'est un concept qui m'amuse beaucoup. Enfin, le marabout, le féticheur, dans Seules les bêtes, oui, il y avait un côté presque un peu ironique. Et là, c'est vrai qu'il y a le chat noir. Enfin, il y a l'idée du chat noir qui est vraiment un truc de chez les flics. Enfin, quand ils sont appelés sur une enquête la veille d'un week-end où ils voulaient passer du temps avec leur famille ou autre, enfin, ou quand les enquêtes s'enchaînent les unes après les autres, et cette idée de qui porte la poisse, enfin, qui est le chat noir. Et souvent, donc, ça tombe évidemment sur les jeunes qui viennent d'arriver et qui se font un peu bizuter. Et comme il y avait cette question-là, et qui est donc évoquée dans le film, on avait envie de décliner ça avec la présence de chats tout le long du film. Donc il y en a plusieurs qui font leur apparition dans le film.
Dernière question. Dans le générique final, un remerciement, c'est à Thierry Bouli Cafando. Hasard ou coïncidence? Le Bouli.
Ah oui, non, ça c'était dans Seules les Bêtes, oui. Seules les Bêtes, c'était dans Seules les Bêtes, c'était un machiniste burkinabé qui était vraiment un super machiniste, un être humain.
Et trois ans après, Bouli arrive.
Et en fait, il est décédé quelques semaines après le tournage d'un paludisme foudroyant. Et c'est vrai que son surnom, c'était Bouli. Enfin, il s'appelait Thierry, mais son surnom, c'était Bouli. Et c'est vrai que oui, j'ai jamais fait le rapprochement, mais c'est voilà. Mais donc là, il y a un autre Bouli.
Dominique, un grand merci. Donc on rappelle donc votre film La Nuit du 12 qui sort le 31 août. Merci.
Merci à vous. Merci.